Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 20 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 113 730 dollars ce matin, en léger recul que ça soit en journalier ou sur la semaine, à seulement 48 heures d'un événement important qui aura lieu du côté des États-Unis. On y vient dans un instant. Ethereum sous les 4200. On va voir dans un instant là aussi que peut-être on a une zone à défendre autour de 4000 qui peut être intéressante en guise de rattrapage pour ceux qui étaient toujours un peu retardataires autour de la seconde crypto-monnaie du marché. Et quand on observe ce top 10, donc on a une contre-performance pour ADA Cardano, moins 8% en journalier, et par la suite, voilà, c'est soit à l'équilibre, soit autour de plus 1 à moins 2%, grand maximum, moins 3% pour Monero, on a plus 10% pour Mantle. D'ailleurs, ça tient très très bien en ce moment, 25e place, 1,40$, 34% sur la semaine, 70% sur le mois, très très belle progression. Également dans l'intégralité dans le vert pour OKB, puisqu'ils vont brûler 70% de leur supply, si je ne dis pas de bêtises, ou même peut-être un petit peu plus. Et du côté donc de la fin de ce top 50, on a WorldCoin, ASA, Official Trump qui sont passés largement sous les 1,8, puisqu'on est à 1,7 à peu près milliards de capitalisation, ce qui démontre qu'on avait un désengagement encore latent du côté des altcoins, en tout cas pour l'instant. Au niveau du 4 heures sur le Scalpex Index, on est quasiment venu chercher les 112 000, donc ça s'est arrêté juste avant. On est sur la borne basse de ce range. On a les open interest qui sont en train de se désengager. Donc ça, c'est pas plus mal, puisque ce qui est en train de se passer là ces derniers jours, c'est que dès qu'on avait la moindre baisse, que ça soit du côté de Bitcoin ou du côté de Ether, il y avait immédiatement tout le monde qui voulait buy the dip, qui voulait long, c'est-à-dire acheter, hein, tout simplement, en langage courant. Et ça se précipitait notamment avec du levier, ce qui fait que petit à petit, le cours continuait de dégringoler. Ça, c'est de l'or en barre, j'ai envie de dire, pour les market makers. Le Crypto Fear and Greed 44 sur la neutralité, pas très loin de passer dans la peur. On passerait dans la peur, bien entendu, si on repassait sous les 112 000, ce qui voudrait dire dans un premier temps retour autour de 105, voire autour de 100 000, si vraiment on voulait faire peur à tout le monde au cours de ce début de mois de septembre. Quelques infos en vrac avec Timothy Patterson qui mettait en avant que le Bitcoin a reculé de 8% sur les 6 derniers jours. C'est arrivé 41 fois depuis 2022. Et donc, d'un point de vue purement statistique, 66% du temps dans les 6 jours qui ont suivi, le gain était d'environ 8%. Et quand ça s'est passé de manière négative, c'était moins 3% en moyenne. Donc on est plutôt, on va dire, sur un rebond favorable, en tout cas à court terme. Le social interest avec Benjamin Cohen qui est au plus bas du côté de Bitcoin. Donc ça ne sont toujours pas les particuliers qui feront le marché crypto, en tout cas sur la première crypto-monnaie du marché. A contrario de Ethereum, sur lequel on a fait un nouveau point haut sur le terme de recherche Google. Donc vraiment là en ce moment on avait les vases communicants, mais si Bitcoin commence à reculer, vous vous doutez bien que Ether va pas progresser tout seul. On a besoin, pour que les alts soient forts, d'avoir un Bitcoin qui est à peu près stable. Pas mal de monde qui attendent la dernière jambe haussière sur Bitcoin, en moyenne entre 130 et 150 000 quand on regarde un peu les targets sur les réseaux sociaux, et pas de TP, donc de prise de profit, à 125 000 pour viser seulement 5, 10, 20 000 de plus après un bullrun qui nous a fait passer, rappelons-le, sur Bitcoin de 15 000 à quasiment 125 000. Donc c'est un peu le miroir finalement de ceux qui voulaient attendre 10, 12 000 à l'époque où on était à 15 et qui disaient oui, coûte que coûte, je paierai sous les 15 000, etc. Et c'est là où finalement c'est un peu dommage de ne pas commencer à prendre ses profits, puisque on ne sait absolument pas où se terminera ce cycle haussier. De même que lorsque le bear market pointera le bout de son nez, on ne sait pas jusqu'où on peut descendre. Franck qui met en avant, ben évidemment, que tout le monde est en train de long avec levier, donc à chaque fois, ça peut permettre aussi de détecter potentiellement, ben voilà, un point bas. Là, actuellement, le BTC pourrait très bien rebondir à partir de la zone sur laquelle nous nous trouvons, et c'est un peu le résultat qu'on avait eu aussi lors de la dernière analyse on-chain avec Crypto Sapiens, où on avait vu que oui, on commençait à avoir quelques trucs qui étaient un peu en surchauffe, mais on était très loin d'une très grosse surchauffe ou d'une quelconque euphorie. Euphorie qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau des termes de recherche Bitcoin, pourrait ne jamais revenir quelque part, en tout cas au sens strict particulier tel que nous on le conçoit et on le voit du côté des réseaux sociaux. Et c'est une euphorie qu'on avait eue au premier trimestre 2024, un petit peu en décembre 2024 quand Bitcoin a franchi les 100 000 $. Mais sinon, globalement, voilà, on n'a plus réellement ce centre d'intérêt latent pour les particuliers tel qu'on a pu l'avoir 2017-2018 et 2020-2021. Et petit à petit, avertit en plus les particuliers qui ont été énormément déçus par les crypto-monnaies se tournent de plus en plus vers la bourse traditionnelle. Un petit hors-sujet, et ça se passe en Chine avec la société Kaihua Technology qui vient d'inventer le premier humanoïde doté d'un utérus artificiel capable de porter un fœtus et de donner naissance. Donc quand j'ai eu ça, je me suis dit c'est bon, on arrive à Matrix clairement, avec l'IA aussi qui part en exponentielle. Je sais pas ce que ça va donner ça, mais d'ici 2100, si on se fait cultiver tel que dans le film, ça ne serait pas si surprenant. Le Wyoming, qui devient le premier état des États-Unis à lancer son propre stablecoin, c'est assez fou aussi, mais on voit que l'enjeu et le sujet pour les States à ce jour, ça reste bien évidemment les stablecoins, et je suppose qu'au travers du temps, ça sera un des gros moteurs de cette économie crypto aux États-Unis. Il y a 48 heures, donc, puisque j'ai pas celui du jour, c'était les outflows du côté de Bitcoin, 122 millions en recul, 196 millions pour Ether, et Coinbase qui a reculé à la 308e place. Donc on a à peu près en recul d'une cinquantaine de places sur la semaine. Là aussi, ça démontre que pour l'instant, les particuliers ne se bousculent pas au portillon. Et donc on en vient au petit sujet du jour qui a son importance. Vendredi 16h, heure de Paris, une prise de parole de Jérôme Powell, donc le dirigeant de la Fed actuelle, est attendue au symposium de Jackson Hole aux États-Unis. La dernière fois qu'il avait annoncé à l'époque traiter justement du sujet de cette baisse de taux, c'était à cette occasion. Les marchés qui seront donc dans l'attente du signe qui leur donnera une direction pour la rentrée, et chaque mot pèsera lourd dans la balance, puisque comme vous le savez, au niveau du cadre qui nous entoure actuellement pour les États-Unis, d'un point de vue justement structurel et de ce qui se passe vis-à-vis de ces taux, on a pour l'instant un rebond qui a l'air de pointer le bout de son nez au niveau de l'inflation. Les derniers chiffres qui sont parus, notamment le PPI, c'est-à-dire la production industrielle aux États-Unis, étaient vraiment très éloignés du consensus et des chiffres qui étaient attendus. Donc aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop ce que va pouvoir faire en termes de marge de manœuvre Jérôme Powell, mais c'est une allocution qui va être vraiment scrutée. Si le ton est plutôt neutre, ça peut passer pour la rentrée. Si le ton est plus positif, bien entendu que ça insufflera une belle dynamique pour cet automne, et par ton positif, ça veut dire annoncer une baisse de taux dans l'immédiat, c'est-à-dire septembre ou octobre. Et le point négatif, ça serait de dire on ne baisse pas les taux et potentiellement pour tout 2025. Ce n'est pas du tout ce qu'attendent les marchés actuellement, et c'est probablement ce qui pourrait déclencher là aussi des prises de profit bien plus rapides et exacerbées autour de cet automne. Donc on est un peu pendu actuellement aux lèvres et aux décisions de la Fed des États-Unis, et c'est typiquement alors que les indices sont sur des nouveaux ATH, ce qu'attend le marché pour justement faire ce juge de paix ou de guerre, et avec un déclenchement qui pourrait venir justement autour de ce mois de septembre si jamais les marchés commençaient à prendre peur. Charles Edwards qui met en avant que les Bitcoin Treasury Company commencent à reculer largement au niveau des achats qu'elles font, donc c'est normal avec un Bitcoin entre 115 et 125 000, je suppose que ça devient de moins en moins intéressant, et notamment pour ceux qui n'ont pas les reins aussi solides que MicroStrategy. Donc on voit qu'on a un net recul actuellement. Est-ce que c'est précurseur justement d'une baisse, ou est-ce que ça accompagne la baisse actuelle? En tout cas, de même que les inflow outflow pour les ETF, ça serait un signal des plus intéressants à observer. Bob Lucas qui nous parlait de la correction court terme qui pourrait nous amener justement autour de 105 000 dollars, avec en dernier recours bien entendu les 100 000, et pour lui pareil, on n'a toujours pas terminé ce cycle. Et Coinometrics qui met en avant la volatilité qui continue de diminuer. On a même Nvidia, comme vous le savez, qui ces trois dernières années a battu largement la volatilité de Bitcoin, et le Nasdaq pareil qui se place, quand on regarde du côté des indices, largement au-dessus de tous les autres marchés. Donc on a une tech vraiment qui est omniprésente aujourd'hui, qui pèse beaucoup beaucoup trop lourd dans l'indice, que ça soit le S&P 500, du coup le monde par effet ricochet, et également le Nasdaq puisque c'est l'indice de la tech forcément. Et donc est-ce qu'on est en bulle du côté à la fois de Nvidia, de l'IA, de la tech des États-Unis? Est-ce que si ça venait à reculer un peu plus fort dans les prochaines années, ça ne risquerait pas d'emporter le reste avec lui? Et aussi des secteurs qui ne demandent que ça, d'avoir une rotation, notamment tout ce qui va être santé, on va dire les secteurs bancaires qui ont tendance à performer un peu de manière cyclique, et surtout les actions qu'ils appellent dans la bourse value, avec parfois des PE qui pour l'instant sont très attractifs mais qui ne semblent pas être récompensés par les marchés. Donc tout ça mis bout à bout, ça pourrait aussi redistribuer les écarte justement dans les 3 à 5 ans qui viennent. C'est pour ça aussi que nous, de notre côté, il ne faudra pas être complètement figé sur l'image qu'on se fait des marchés et du marché crypto, puisqu'on pourrait bien être surpris à la fois en positif et en négatif. Ethereum qui venait d'atteindre, donc une fois qu'on était proche de son ATH des 5000, la déviation standard sur l'indicateur on-chain qui s'appelle Realized Price to Liveness Ratio, avec donc une mesure au travers du temps et qui peut s'apparenter quelque part un peu à ce qu'on avait vu du côté de Bitcoin pour les achats qui sont en gain et en perte sur une certaine durée de temps. Et on voit que là, on avait atteint donc autour de 5000 une zone de surchauffe. Si vraiment on revenait très bas sur la médiane, on serait au-dessus de 3000, 3002 peut-être. Il n'y a pas toute l'échelle ici sur le bord. Mais on voit qu'aujourd'hui, pour vraiment avoir un point d'entrée en fonction du temps qui serait à peu près intéressant, si tant est que par la suite, on ne rentre pas immédiatement en bear market, ça se passerait quelque part entre 3000 et 3005, donc sous les 4000, sachant que pour l'instant, on va le voir au niveau de l'analyse technique, on a envie justement que les 4000 tiennent. On terminera avec un peu de nostalgie et Chico Crypto, pour ceux qui l'ont connu, notamment au cycle précédent, un Américain du côté de YouTube, qui nous avait fourni cette petite analyse début 2022 avec les projections de ce que pourrait être le futur prix de Bitcoin à la fois sur son point bas au moment du halving et en pic avec les dates associées. Et c'est assez fou parce qu'il a vu plutôt juste. Alors c'est pas exact au dollar près, au jour près bien entendu, mais le bottom en septembre 2022 avec un prix à 14 500, ben, on était vraiment pas loin là pour le coup, hein, puisqu'on a bottom à 15 500. Le prix du halving, 51 000 dollars en mai 2024, on était à 70 000 un peu avant, et le pic qui pourrait avoir lieu en décembre, début décembre, enfin la première quinzaine, à 155 000 dollars. Donc pour des prédictions qui ont été faites début 2022, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et c'était en triant un peu mes vieilles captures que je suis retombé là-dessus. Depuis, il a l'air d'avoir arrêté YouTube, notamment en devenant papa, se mariant, et je sais pas s'il a pas déménagé ailleurs qu'aux États-Unis, mais voilà, en tout cas, on lui tire notre chapeau pour cette prédiction qui était quand même assez extraordinaire. Le ratio USDC-USDT qui est en train encore et toujours d'essayer de nous faire un bottom ici. Et finalement, ce qu'on est en train de voir ici, est-ce que ça serait pas tout simplement ce qu'on est en train aussi d'observer sur le DXY, sur le dollar américain, qui petit à petit est en train lui aussi de se congestionner ici, dans l'attente bien entendu d'une baisse de taux ou non. Mais dans tous les cas, si le court et moyen terme pourrait nous donner tort ou raison avec un petit peu plus de volatilité potentiellement à la baisse pour le DXY, il ne faut pas s'y tromper. En 2026, avec l'arrivée des midterms et tout ce qui aura eu lieu justement sur cette année 2025 avec les tarifs, etc., 2026 devrait, si justement l'histoire se répète, se placer sous le signe d'un rebond du dollar américain, donc d'une dépréciation de l'euro et de tout ce qui va bien. Ce qui veut dire aussi que pour nous dans la crypto, si on a pris des profits par la suite, il vaudra mieux au cours de 2026, bien entendu, ou même avant, les avoir convertis en stablecoin dollar pour bénéficier de la remontada du dollar. Après, là aussi, ça n'est pas garanti, mais c'est l'image que je me fais de ce qui est en train de se matérialiser, et notamment ici pour cette dominance de stablecoin qui est en train de nous faire un point bas sur ce ratio USDT-USDC contre le total. Le crypto total qui a eu un échec de nouveau autour de 4000 milliards, le petit M qui est en train de se matérialiser autour du RSI, donc les 70, ça ne passe pas, la double trend hebdo et mensuelle, ça ne passe pas. Là aussi, dans l'immédiat, on n'aimerait pas perdre autour de 3700, voire au plus bas, le point de juillet, fin juillet 2025, autour de 3600 milliards. On voit que dans tous les cas, ça fait trois fois qu'on est divergent. Le cours qui fait trois points haut plus haut, le RSI trois points bas. On a quand même des volumes. Donc bien entendu que si la Fed sort de son chapeau vendredi, qu'ils vont baisser trois fois les taux d'ici la fin de l'année, on ira très certainement à 150 000 sur Bitcoin. Si maintenant la Fed commence à la jouer un peu agressive, mais le miroir inverse en mode non, les taux on va pas les baisser, et en plus on se réserve le droit début 2026, si les chiffres économiques continuent de se dégrader, de monter les taux un petit coup avant de les rebaisser derrière, alors là il en faudrait pas plus au marché bien entendu pour dérouler une partition qui nous plairait pas du côté du marché crypto. Donc on va pas privilégier le négatif bien entendu, mais à court terme, même quand on regarde ici le crypto total 2 qui exclut donc Bitcoin, eh bien c'est pas reluisant. On n'a pas fait un nouvel ATH sur ce cycle, en tout cas pour l'instant. mouvement. On échoue deux fois au même endroit que décembre 2024. La trend, pareil, on se fait repousser. Donc, je ne sais pas concrètement qu'attend le marché crypto, mais on voit que les opérateurs ne sont pas là pour prendre du risque. La dominance qui se stabilise peu ou prou autour de 60%, donc statu quo également de ce côté-là, et le Bitcoin, comme on le sait, qui donc, s'il vient à perdre cette zone des 112 000 $, baissera dans un premier temps autour de 105 000, c'est le 0,38 de Defibo. On a le 0,5 qui est autour de 100 000 $, légèrement en dessous, 98 000 pour être précis. Le 0,618 à 93 000. Et ensuite, voilà, ça voudrait dire que malheureusement, on est rentré en bear market prématuré si tout ça venait à s'activer. Donc, ça n'est pas anodin hein, ce qui est en train de se dérouler actuellement. Quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui disent avec une certitude absolue que la fin d'année nous est due, que l'alt season nous est due et que le top de cycle n'est pas là, on n'en a aucune certitude actuellement. Et ça, ce qui est en train de se matérialiser ici, ça peut tout à fait être le top de cycle. Il n'y a vraiment rien là qui nous dise dans l'immédiat que ça ne peut pas être le top de cycle. Encore moins le RSI qui est divergent en 3 points. Encore moins le fait qu'on est tout à fait dans une box à 125 000 qui est honnête et honorable pour un cycle qui nous aura fait passer, pour rappel, de 15 000 à 125 000 avec une performance de 700% sur Bitcoin. On est sur un x8, je le rappelle, entre novembre 2022 et ici août 2025. Donc à partir de là, les personnes qui n'ont pas pris de profit aujourd'hui autour de 115 à 125 000 et qui attendent pour one shot à 130, 140, 150, je vous le dis de but en blanc, les personnes qui font ça, vous allez perdre de l'argent, vous allez voir le Bitcoin reculer et de manière astronomique au cours de 2026 ou de 2027 et malheureusement, vous allez vous retrouver tel que nous on s'est retrouvé sur nos premiers cycles, complètement cloués et par la suite, vous commencerez à comprendre et à apprendre. Bien entendu, là, je parle à ceux qui voulaient prendre des profits, ceux qui ne veulent pas en prendre et qui sont là pour 3, 5 ans, voire 10 ans, tout ce que je viens de dire ne vous intéressera pas. Alors Ether qui est en train de nous faire un petit bull flag en journalier et qui est venu chercher donc la zone des 4000, c'est plutôt positif, on espère de la réaction autour de cette zone. Pour l'instant, bien entendu, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, d'autant plus que là aussi, on fait exactement comme sur le Crypto Total 2, on est venu chercher quasi la TH, on ne le franchit pas, c'est normal, même Bitcoin à l'époque, à chaque fois qu'il arrivait sur son ATH, ça bloquait, ça moisissait un petit peu. Il y a besoin de faire travailler le prix sur une zone qui est relativement inefficiente. Par la suite, si on tient les 4000, bien entendu qu'on ira chercher l'ATH. Là aussi, on a un M qui est en train de se matérialiser au niveau du RSI autour de la zone des 70, à ceci près qu'on est au-dessus de la zone de polarité des 60. Et là, ça peut être intéressant, en effet, de dessiner un petit range au-dessus des 60 de RSI hebdo pour Ethereum, pour par la suite jouer, pourquoi pas, les 84-86 qui constitueraient donc la zone très long terme et qui pourrait être atteinte, en effet, si on a du positif autour de cet automne, mais comme on vient de le voir ensemble, tout n'est pas gagné. Le S&P 500 qui commence petit à petit aussi à peser dans la balance, puisque on a eu un rallye, une remontada des enfers, un V-bottom de 34% pour le S&P 500, alors que c'est un indice qui est censé délivrer 8% à l'année. Vous voyez qu'il y a un petit problème, donc forcément 2026, imaginez un peu ce qui risque de se passer. Toujours est-il à court terme, la zone qui nous démarquera d'une accélération baissière se trouve à 6145 points et si on se met les petites moyennes mobiles, ça peut être intéressant au long terme. On a la 200 aujourd'hui qui est alignée autour de 4800 points qui avait été le support long terme là aussi, qui avait été payé en avril 2025 par le marché après une descente d'une bonne vingtaine de pourcents. Je vous donne le chiffre exact, on était presque à moins 22%, donc moins 22 pour prendre 34 derrière. Bien entendu que les personnes là aussi qui ont payé les indices, c'est pas forcément un truc sur lequel on prend des profits quand on est sur un ETF S&P 500, quand on est sur un ETF monde et qu'on est là pour 10 ou 20 ans, mais quand on a fait une année à 35%, pourquoi ne pas mettre un petit peu de cash de côté pour la période justement qui risque de s'annoncer un peu tortueuse au cours de 2026 et l'apogée de tout ça, ça pourrait être justement novembre 2026, au moment même où historiquement, en effet, on a eu les points bas de marché. Mais tout ça, ça sera le thème d'une autre émission puisque je suis en train de vous synthétiser à peu près ce qu'avait fait Chico Crypto il y a trois ans pour le marché crypto et pour vous donner exactement au mois près et peut-être une fourchette de prix justement de ce que pourrait être plus tard à la fois le S&P 500 et le marché crypto sur telle date et telle zone donnée pour vous aider justement en termes de cadrage à y voir un petit peu plus clair sur les une à deux minima années à venir et jusqu'à la fin de ce prochain cycle qui devrait s'étendre jusqu'à 2028-2029. Donc on est assez proche de 2030, on va dire entre 3 et 5 ans. Le gold qui bataille avec la moyenne mobile 20, 3 325 $ l'once. Donc là aussi, on est toujours dans une box, mais on va voir si ça en sort par le bas et ce qui pourrait accréditer aussi le fait qu'on aurait des taux qui viendraient à se détendre si jamais on a Jérôme Powell qui finit d'acter ce pivot. On voit qu'on est en bout de contraction hein, au niveau du taux de gouvernement donc de 10 ans pour les États-Unis. La volatilité est complètement cassée. Donc quand ça va sortir, ça va sortir très fort. Soit on part en direction des 5% et là vous pouvez oublier pour un an le marché action, le marché crypto, ça sera véritablement le bear market là et je pèse mes mots pour 2026. Soit on part au sud et on a la moyenne mobile 200 qui nous attend à 3,72 dans un premier temps et là ça voudrait dire qu'on a un automne remarquable pour les marchés à risque. Les sociétés de mining et de Bitcoin et Ethereum Treasury Company qui se sont pris des moins 10, moins 7, moins 8 hier. TerraWulf a noté, on a la participation de Google qui a été amplifiée 2x2, donc ils ont augmenté encore leur participation. Ceci étant dit, on est sur un actif qui, depuis mars 2023, a pris quasiment 2000% pour Wolf l'action. Donc c'est un truc à surveiller ça, et clairement, j'irai le payer très certainement en fonction de la zone que nous donnera le futur bear market, en simultané de Coinbase et de Circle. Les actions américaines, pareil, en majorité, on était dans le rouge hier. On a Coinbase même qui était à moins 6, donc Coinbase qui pour l'instant est autour de $300. C'est une zone qui peut devenir intéressante, mais pareil, quand on a fait un run depuis les $32 en décembre 2022 et qu'on est venu chercher donc un nouvel ATH à $442, c'est la même musique que sur Bitcoin. On a le 0.382, moyenne mobile 20, hebdo qui est à $285. Ça en fait un premier point honorable, mais si on revient ne serait-ce qu'à la moyenne mobile 200 au cours du bear market, c'est $160. Donc ça fait une baisse quasiment de 50% par rapport à là où on se trouve. Et je rajouterai en guise de conclusion pour Coinbase qu'au vu de la volatilité que le titre a eu, ça serait clairement pas surprenant lors d'un futur bear market de plutôt le voir s'établir autour de $120 ici. Donc 0,786, zone long terme, sous la moyenne mobile 200. Là, ça serait une déviation qui commence à devenir sérieusement intéressante. J'ai toujours pas pris le temps de vous faire l'émission autour des alts. Je ne vous ai pas oublié, mais voilà, pour le moment, j'ai pas énormément de temps puisque c'est mi-août et vous vous doutez bien aussi que il faut un petit peu profiter de la vie et des choses à côté. Donc je me penche sur les alts rapidement pour vous en parler. Et donc je devais clôturer aussi l'émission avec Nano Dreamer qui nous avait demandé il y a 3 jours, j'avais oublié lundi, de faire un petit point rapide sur par exemple le Sol ETH. Il ne comprenait pas le ratio en fin d'émission. Et donc on va se repositionner sur ce fameux Sol ETH pour regarder en fait ce qui se déroule sur ce graphique. Et on peut observer en gros la force de Solana par rapport à Ether. Quand on était ici en décembre 2022, janvier 2023 et rebelote en juin 2023, on voit que on avait un Ether qui était fort par rapport à Solana et par la suite, à compter justement de l'été 2023, sur ce ratio, on a progressé d'environ 600% sur Solana face à un Ether qui a été catastrophique sur ce cycle, n'ayons pas peur des mots, ce qui veut dire que quand cette trend, tout simplement le seul truc que vous devez retenir de votre côté, est haussière, Solana surperforme Ether. Quand cette trend ici est en train de faire un peu le dos rond, eh bien on se pose pas mal de questions. D'ailleurs, tout ceci, ça pouvait être précurseur justement du retournement de tendance de Ether face à Solana. Et à partir du moment où cette trend est baissière, comme actuellement, eh bien Solana sous-performe par rapport à un Ether qui, dernièrement, a été très fort. Quand on regarde malgré tout sur le long terme, Solana a bien plus progressé sur ce cycle que Ethereum en termes de pourcentage et en termes de ratio relatif au prix. Donc c'est quelque chose qu'il faut observer quand on veut jouer le court terme. Au long terme, sur ce cycle, Solana a été meilleur que Ether en termes de performance globale. Par contre, souvenez-vous, quand on était par là, il y a beaucoup de gens qui étaient en train de jeter l'éponge et de convertir leurs Ether en Solana. C'était beaucoup trop tard. Et là, depuis, ils se sont complètement fait punir puisque depuis le point haut d'avril 2025, on est quand même en recul de plus de 50% sur le ratio Solana contre Ether. Donc ça va te permettre, en fait, en comparant systématiquement ta crypto-monnaie, ton altcoin face à Ether et surtout face à Bitcoin, qui est vraiment le roi incontesté sur ce cycle, de vérifier à partir de quel moment ça devient intéressant. Si on pousse l'analyse un peu plus loin, on voit qu'on n'est pas très loin de la moyenne mobile 200 ici et que ça pourrait devenir intéressant en effet de nouveau s'exposer à Solana par rapport à Ether, d'autant plus qu'on a potentiellement un RSI qui est sur un point qui pourrait devenir un futur point bas. C'est pas encore gagné, puisque je suppose que si Ether n'a pas fini son propre run, ça peut encore un petit peu baisser, et pourquoi pas par rapport au ratio ici Solana Ether jusqu'à 0.02 alors qu'on est à 0.04 aujourd'hui. Donc il y a quand même du downside encore potentiel, mais le jour où ça se retournera, eh bien tu auras ton signal que à court moyen terme il vaut mieux se positionner sur Solana plutôt que Ethereum. Et donc, en guise de conclusion à cette émission du mercredi 20 août 2025, eh bien merci à Flops Gaming qui nous suit depuis 2020. Il est rentré sur le marché en 2017, on n'était même pas encore là, et il a subi pendant un petit moment des mauvaises prises de décision, gestion des émotions et du marché très compliquée, et il nous remercie de l'avoir aidé à traverser ces tempêtes, à prendre du recul, et donc une des personnes de la communauté et de la majorité silencieuse, comme il le dit, qui nous remercie 4 ans plus tard, et ça fait super plaisir, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a, sans trop vouloir nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit, une vraie valeur ajoutée sur la chaîne, une force de proposition qui s'appuie sur des années d'expérience et sur l'expérience justement d'intervenants qui ont des dizaines d'années d'expérience de leur côté, notamment en bourse traditionnelle. Et ça, je peux vous dire que ça fait toute la différence niveau prise de recul. On n'est pas dans la panique quand on est sur des points bas, on n'est pas dans l'euphorie quand on est sur des points hauts. Ça permet d'avoir un ton qui est relativement neutre, voire slash pessimiste pour certains, comparativement à l'engouement et l'entrain permanent qu'ont d'autres créateurs de contenu qui vous disent que tout va aller bien, que tout va faire que monter, que ton bac d'alcoin à moins 99%, t'en fais pas, il y aura une alt season, etc. Malheureusement, ça n'est pas le laïus qu'on aura sur la chaîne, puisque ça serait un peu de la malhonnêteté intellectuelle. Mais pour autant, sur le prochain cycle, j'essaierai de travailler sur ça, d'avoir un ton qui sera neutre plus positif plutôt que neutre à consonance pessimiste, et de vous donner systématiquement le pour et le contre sur chaque phase de marché, sur chaque point dur, que ça soit bas ou haut, pour vous donner les cartes de votre côté et savoir si c'est le moment opportun, à la fois pour payer le marché et pour prendre vos profits. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce week-end. Ciao, ciao.